Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, en compagnie d'Aline Thomazin et de Jean-François Ladjé.
Bonjour chers auditeurs.
Bonjour chers auditrices et chers auditeurs.
Oui, chères auditrices, excusez-moi.
Peut-être rappeler que nous nous sommes quittés lors de la dernière émission sur l'exposé de l'habitat dans Toulouse. Mais la question que je voudrais poser à Jean-François, c'est celle de comment s'orienter aujourd'hui dans cette ville dont on a décrit un petit peu l'organisation spatiale, les monuments principaux. Par exemple... l'archéologie permet.
Eh bien, par
ce
exemple,
que l'archéologie a permis.
Si nous faisons un trou avec des pelles et des pioches, et si on descend verticalement en profondeur, qu'est-ce qu'on trouve ?
Ah,
petit voyage.
Oui. Alors, je vais encore rendre hommage au regretté archéologue
Jean-Luc Boudartchouk.
Parce que. Bon, il n'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que, notamment avec les fouilles archéologiques à la station des Carmes...
Pardon d'interrompre,
oui,
mais on doit quand même se féliciter. Souvent, on en est un peu bousculé, mais les travaux d'édilité permettent d'ouvrir le champ de la recherche archéologique.
Exactement.
Et ça, c'est quand même voilà, à mettre au crédit... du défoncement des rues,
oui,
aux grandes dames de ceux qui pensent qu'il faut tout conserver,
oui.
Comme ça.
Aux grandes dames de ceux qui pensent qu'il faut tout raser pour aller plus vite.
Et tout raser pour aller plus
oui.
vite.
Bon, vive la science, vive la connaissance. et il est vrai que voilà, il y a des fouilles destructives, c'est-à-dire qui
mais
sont
oui.
documentées. Mais une fois que ce qui a été trouvé est documenté, les objets retirés dans les musées, soit exposé ou dans les réserves ou dans les expositions, enfin voilà, tout ça fonctionne. Quelquefois, quand ils sont extrêmement significatifs, ils peuvent être intégrés dans des bâtiments. Je pense, on l'avait dit, au vestige d'une tour gallo-romaine, là, dans le hall.
Dans un magasin ou dans le hall du TNT aussi.
Oui,
dans le hall du TNT,
au foyer.
On peut les citer sans faire de publicité.
Voilà, il y a quelques endroits... où c'est très significatif et du coup c'est très, enfin, vraiment intéressant de les mettre en valeur. Et puis il y a des endroits, on l'a vu pour les stations de métro par exemple.
Et les parkings.
Voilà.
Malheureusement pour
Exactement.
La Porte Nord,
voilà.
mais fort heureusement pour dégager les proportions du Grand Temple.
Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que si,
pour
répondre... brièvement à la question de Sébastien sur la stratigraphie, moi je dirais... que quand on est entre le Capitole et le Palais de Justice, en fait, on peut se repérer en profondeur en prenant les escaliers qui descendent dans les caves. Vous allez dans les cafés, vous allez dans les restaurants, il y a des réserves, il y a des salles, il y a des boîtes de nuit, tout ce que vous voulez, peu importe la destination actuelle de la cave. Mais vous imaginez que vous descendez 5-6 marches. Là, vous êtes au niveau 13e, 14e siècle. On le voit aux Jacobins. On le voit aux Augustins, aux Jacobins, on le voit de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on voit le sol de l'église qui est en décaissé par rapport à la rue qui dessert le lycée Fermat. Aux Augustins, on le voit avec la nouvelle entrée entre la rue de Metz et le cloître, cet effet de pente. Vous descendez d'aujourd'hui au XIVe siècle. Bon. Vous reprenez le même escalier, vous redescendez 5-6 marches. Là, vous êtes au niveau mérovingien. Donc, Aline,
bon.
Si vous voulez vous repérer,
bon.
Vous descendez une dizaine de marches, et là, vous allez être au niveau... Bon, tout ça, ce sont des ordres de grandeur.
Dans notre cave de l'hôtel du Mai, que nous sommes en train de restaurer, et d'ailleurs qui fait l'objet d'une fouille
archéologique.
Eh bien, voilà, on a l'illustration de
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous descendez les escaliers, vous arrivez au niveau de la cave,
oui.
Et là, vous êtes, mettons, à 3 mètres sous terre, 3 à 4 mètres sous terre, et là, vous êtes au sol antique de la refondation de la ville par Auguste au 1er siècle.
Qui a été trouvé.
Et à l'hôtel du Mai, ça a été trouvé, effectivement. On est à 30 cm à peine sous le sol de la cave. Donc, Voilà, pour se repérer. On sait que, en gros, voilà, vous faites en gros 2 mètres sous terre et vous êtes au 6e siècle, au sol, enfin 6e, 7e.
Ça veut dire quand même que lorsque on porte ses pas du sud au nord, c'est-à-dire de l'actuelle place du Salin à la place Saint-Sernin, ben, nous mettons nos pieds dans les pas des Romains, on peut dire ça
Parce que c'est le Cardo Maximus. Plus ou moins, parce que la rue est plus sinueuse que ne l'était le Cardo. Pardon. Jusqu'à la porterie, dans la place du Capitole. Et après, bon, on était hors les murs, hein, jusqu'à Saint-Sernin. Mais en gros, la ville d'Auguste, elle est à 3 mètres sous nos pieds. Et dans le Cardo Maximus, il est à 3 mètres sous nos pieds. Voilà, nonobstant ces sinuosités qui actuelles, enfin médiévales, qui n'étaient pas à l'époque. Et puis, à 2 mètres sous nos pieds, on a un Cardo qui s'est déjà largement déformé. Mmh. Et ça, je reviens donc aux fouilles archéologiques, et notamment à Esquirol. Hein. Vous parliez du Grand Temple qui a été fouillé lors des fouilles préalables à la construction du parking à Esquirol. Là, on voit très bien les strates, c'est-à-dire que le temple est détruit à partir des années 380. Il y en a une reconstitution partielle de ce qui a été trouvé au musée Saint-Raymond. On le voit très bien. Ce complexe monumental, temple, forum, portique, il semble vraiment rasé dans les années 400, sauf le podium, l'emmarchement, donc, si vous voulez, qui portait le temple, qui, lui, a été en partie altéré, abaissé, mais son escalier monumental et ce socle ont été conservés sous les Visigoths. Est-ce qu'il y avait une fonction religieuse, pas de ça, les archéologues ne l'ont pas trouvé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le Cardo Maximus, là, à cette époque-là, il est déjà rechargé. Donc, il est déjà plus haut qu'il ne l'était sous les Romains. Et on retrouve des moments de rechargement régulièrement, de sorte qu'au VIe siècle, ce podium, il semble encore un peu dépassé du sol donc, qui est remonté. Et d'où l'hypothèse d'ailleurs de l'édification à cet emplacement au VIe siècle, vers 550, par le duc Lannebaude, on en avait parlé, d'un édifice religieux, Venance Fortuna, pardon, on l'avait cité, un poète italien qui était en Gaule, non. Le site comme étant le lieu dédié à la mémoire du martyr de Saint-Sernin.
Oui, oui.
Voilà. Et donc les archéologues, par recoupement, pensent qu'il pouvait là y avoir une basilique qui aurait surmonté le vestige du podium antique qui dépassait donc du sol. Vous voyez, et c'est la future église Saint-Pierre-Saint-Jérôme médiévale qui, en gros, aujourd'hui se trouverait, on va dire, devant le magasin Orange.
Oui,
la descente au métro, là,
oui, oui.
Et la boutique Orange, ben voilà, à cet endroit-là, il pouvait y avoir une basilique de petite dimension, on l'a vu la dernière fois, hein, au VIe siècle. Voilà. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été fouillé aussi à l'est, le premier cardo, donc nord-sud, parallèle donc, au cardo Maximus, c'est-à-dire en gros l'axe de la rue des Tourneurs, vous voyez ?
Ah oui.
Voilà. Et là, on voit de la même manière que ce cardo secondaire, donc, il est régulièrement rechargé aussi, en galets, en tuiles pilées. Hein, on récupère des matériaux, on casse, on pile et on recharge la voie. Vers 300, donc, on est encore sous les gallo-romains, il est complètement refait, toujours en tuiles et briques et morceaux de tuiles cassés. Donc vous voyez que déjà le sol est remonté. On voit que les Visigoths réduisent la largeur de la rue de moitié. Donc on n'est plus déjà, vous voyez, chez les Visigoths, dans le paysage urbain gallo-romain. Donc la voie remonte, elle diminue de largeur, et après, au début du VIe siècle, c'est-à-dire sous les Francs, alors là, on trouve une couche noirâtre qui atteste un incendie, probablement lié à la comtesse Franck. Et ces traces sont encore repérées à l'est du Cardo, c'est-à-dire, si vous voulez, à l'est de la rue des Tourneurs, à peu près actuelle dans un îlot d'habitat, où là, on trouve des constructions de bois, de torchis, élevées sur du remblai. Voilà. Donc, ça, c'est l'exemple de la place Esquirol. Au Carme, c'est un peu pareil. La largeur du cardo, maximus, c'est-à-dire, en gros, si vous voulez, la bordure ouest de la place des Carmes. Donc là, c'est pareil. Il reste du cardo maximus, il ne reste qu'une bande de roulement étroite, avec des fossés, des potoirs de chaque côté, qui font les délices des archéologues, parce que dans ces fossés, des potoirs, ils trouvent quantité de monnaie, de débris, de vaisselle, etc. Et vers 500, donc quasiment au moment où les Francs arrivent, tous les caniveaux et les égouts secondaires des îlots riverains sont hors d'usage. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que l'égout. On ne sait même pas si côté sud, le cardo maximus est réellement encore en place. Vous voyez ? Voilà. Et on pourrait multiplier les exemples de voir comment petit à petit le sol remonte et comment certaines voies disparaissent ou sont surmontées de voies qui peuvent être du coup pas exactement au même endroit, oui, qui à 10 mètres près dévier par rapport à ce qu'était le plan romain.
C'est vraiment la ville qui se construit sur elle-même, qui se mange même sur elle-même.
Oui.
Intéressant. Et peut-être qu'on peut s'arrêter là pour cette fois-ci. On continuera à explorer d'autres.
On continuera à explorer notre cœur de ville lors de la prochaine émission. Merci Jean-François.
Merci à vous.